c'est important de voir comment ça marche pour savoir comment on peut s'en servir plus, une autre fois. Parce que c'est quand même extrêmement utile que ce Parlement ait réagi, que la commissaire ait parlé.
Vendredi dernier à Arras, à Latria, avaient lieu les journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts. Seulement quelques élus, sénateurs, députés, députés européens avaient fait le déplacement pour échanger avec un public venu peu nombreux sur des grands thèmes de société, la réforme des retraites, une table ronde organisée aussi sur le thème alimentation et agriculture, le rôle du Parlement ou encore, et c'est le thème qu'on va aborder dans ce sujet, l'immigration. Pour intervenir sur ce sujet autour de la table, il y avait Marc Boulnois qui avait remplacé au pied levé Dominique Voynet. Marc Boulnois est le maire vert de Noranfonte, une commune située près de Béthune où se trouve depuis de nombreuses années une jungle, c'est-à-dire un camp de migrants.
On est situé en bordure de la 26 qui va sur Calais et depuis une dizaine d'années, hein, il y a des passages de migrants. Et donc aujourd'hui, avec la présence d'une quarantaine d'Érythréens. Donc ils sont sur un terrain qui appartient à la commune, dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales, bien évidemment, hein, c'est sous tente. Avec l'aide et le soutien d'une association qui s'appelle Terre d'Errance et qui les soutient au quotidien sur la nourriture, sur les douches, sur l'eau, sur les problèmes sanitaires et puis aussi sur l'information de leurs droits. Demande d'asile, relations avec la police, etc.
Alors, vous en avez parlé un petit peu, le rôle de l'élu dans ces cas-là. Qu'est-ce que peut faire un élu dans ces cas-là, quoi ?
Alors, un élu local, il a deux choix. C'est soit il met la tête dans le sable et il ne voit pas la situation, ou soit, et ce n'est pas notre attitude, soit la solution que l'équipe municipale a choisie, c'est de prendre à bras-le-corps cette question-là, de travailler, d'interpeller l'État sur la situation, et puis d'apporter le soutien logistique, le soutien aux associations. Donc, concrètement, c'est l'ouverture des douches sur la commune et sur les villages voisins, c'est l'apport de l'eau, c'est l'ouverture d'un vestiaire, c'est la mise à disposition du terrain, ce qui protège un minimum le fait que le camp ne soit pas détruit systématiquement par les autorités. Et puis après, c'est tout le travail avec la population, avec les concitoyens, pour montrer qu'on peut accueillir, qu'on peut être solidaire, qu'on peut dénoncer une politique aujourd'hui ultra répressive. Voilà, c'est faire ce lien-là. Donc c'est un maillon dans une chaîne.
Il y a beaucoup d'élus locaux ou régionaux qui n'osent pas s'investir parce qu'ils ont peur d'un éventuel retour de bâton d'une opinion publique qui serait raciste, xénophobe. Comment vous voyez ça, vous ?
Alors c'est sûr que c'est un choix politique, un risque politique. Ce que je peux leur dire, c'est que au quotidien, chez moi, le Front National n'a pas augmenté. Il y a bien sûr une minorité de personnes qui considèrent qu'on en fait trop, que c'est pas adapté, mais l'immense majorité soutient, accompagne, donne des vêtements, apporte sa part. Et donc voilà, aujourd'hui, alors on verra, les élections municipales sont pas là dans les prochaines années, mais ça sera aussi un test. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas porter un projet de société, un projet politique qui effectivement met au cœur de son projet les droits de l'homme et ne pas prendre des actes au quotidien.
Vous avez évoqué deux pistes de réflexion pour les parlementaires, pour les élus qui sont ici et puis pour la salle. C'est le questionnement au niveau de l'Assemblée nationale des moyens qui sont mis en œuvre par le gouvernement pour cette politique de lutte, on peut dire ça, contre l'immigration clandestine. Et puis aussi, une autre piste, c'est celle de créer des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les CADA.
Alors sur la première piste, c'est de dire que la politique qui est menée actuellement est inefficace, ne résout en rien la situation des personnes ou supposée de notre sécurité, et que donc ça, il faut le démontrer. Aujourd'hui, le gouvernement a une culture du résultat, veut être efficace, etc. Donc il faut effectivement montrer le gâchis à la fois humain et à la fois financier sur des solutions qui n'en sont pas. Donc, alors d'où l'intérêt, là, a priori, de la commission ou de l'audit qui est entamé par les parlementaires à niveau européen et à niveau national sur cette question-là, pour montrer l'inefficacité de cette politique-là. Et puis, effectivement, après, le gros travail, c'est aujourd'hui des personnes qui sont donc là en situation régulière, qui ont demandé l'asile, se retrouvent sans solution parce que l'État ne met pas justement des moyens pour leur accueil dans des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc il faut savoir que dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a qu'un centre ici sur Arras qu'il est saturé et que donc les personnes sont dans la rue en attendant la régularisation finale de leur dossier.
Marc Boulnois, maire de Noranfonte. Je vous signale au passage que ce week-end ont lieu à Noranfonte deux concerts de soutien à l'association Terre d'Errance, association dont il a été question dans l'interview. Donc un concert rock d'abord à la salle des fêtes de Noranfonte avec Burning Lady, Moondust et Kim Rice, c'est ce vendredi à 21h. Et puis un concert lyrique, musique classique, ce dimanche 3 octobre à 16h. Ça se passe dans un autre village juste à côté de Noranfonte, à Ham-en-Artois, à l'église. On revient sur la table ronde sur le thème de l'immigration. C'était lors des journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts vendredi dernier. Autour de la table, il y avait donc Marc Boulnois, maire de Noranfonte, mais aussi Gérard Minet, secrétaire régional de la Ligue des droits de l'homme, Halima Boumediene Thierry, qui est sénatrice de Paris, et puis la locale de l'étape, Hélène Flautre, députée européenne, elle est aussi présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. On a commencé par lui demander de réagir au récent rappel à l'ordre de la Commission et du Parlement européen. Tous deux ont dénoncé les expulsions de Roms par la France et au-delà de cela, ils ont dénoncé les dérives populistes et parfois racistes du gouvernement français. Hélène Flautre.
Oui, ils ont réagi même, j'allais dire, d'une manière assez carrée, en rappelant ce que sont les textes fondamentaux, les valeurs de l'Europe, ce que les États membres, y compris la France, même si c'est un grand pays fondateur, doit respecter. C'est extrêmement heureux. Je pense que nous avions de quoi désespérer de l'avenir de l'Europe, de notre avenir en tant que citoyens européens, s'il n'y avait pas eu, au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne, cette condamnation des propos considérés comme discriminatoires, stigmatisants et racistes tenus au plus haut niveau de l'État en France. Et puis, également, si des procédures, y compris jusqu'à la Cour de justice européenne, n'étaient pas engagées. Donc, la semaine prochaine, nous allons obtenir le rapport de la Commission européenne qui va évaluer donc les actes, les paroles et les textes qui ont été mis en œuvre en France pour motiver l'expulsion des Roms, confrontés à la législation européenne, à la Charte des droits fondamentaux. Donc le rapport de la Commission sort la semaine prochaine. C'est à partir de ce rapport, probablement, que sera motivée une procédure en infraction, si la France, comme j'en suis intimement persuadée, a violé des textes européens, ou en manquement, c'est-à-dire si la France, comme je le suis également persuadée, a mal mis en œuvre du droit européen, par exemple la directive sur la liberté de circulation. Je crois qu'on a, réussi à avoir une réaction politique très forte, et puis le processus continue, les procédures à l'encontre de la France continuent, et on a également obtenu une mobilisation comme jamais, puisqu'il y a eu cette semaine la première réunion pour monter une task force, c'est-à-dire une espèce de groupe mobilisé au sein de la Commission européenne, qui a pour travail mobiliser les fonds européens nécessaires pour l'inclusion, l'intégration, le respect des droits fondamentaux des Roms en Europe, qui sont 10 à 12 millions. Hein. Et donc, on a aussi, je crois, réussi à mobiliser les institutions européennes pour que la situation change concrètement. Non seulement que la France, que les violations des droits ne restent pas impunies, que la France ne donne pas ses mauvaises idées, ne propage pas ses mauvaises idées à d'autres États qui n'attendent que cela. Donc il faut non à l'impunité, donc il fallait parler clairement, mais il faut aussi que concrètement les Roms vivent dans d'autres conditions en Europe. Et donc voilà, c'est évidemment une affaire à suivre, comme on dit, mais je trouve qu'au niveau de la réaction et de la mobilisation dans les institutions européennes, les choses sont pour l'instant adéquates.
Sur le sujet plus large de l'immigration, fin septembre, donc dans quelques jours, passera devant l'Assemblée nationale le projet de loi Besson, qui est présenté par le gouvernement comme la transcription d'une directive, directive européenne, la directive retour.
Oui.
Comment vous voyez cette présentation de ce débat, de ce projet de loi?
Bon, la directive retour, c'est pas pour rien qu'on l'a appelée directive de la honte. Hein. C'est une directive quand même qui est une autorisation d'expulser. De bannir, c'est-à-dire d'empêcher les gens de revenir en Europe, qui autorise les États à enfermer, y compris pour jusqu'à de longues durées. Donc cette directive mérite son surnom de directive de la honte. Néanmoins, le gouvernement fait une utilisation totalement abusive de la directive. D'ailleurs, on s'étonne qu'il ait autant d'énergie qu'il s'attache tellement à mettre en œuvre la directive retour, alors que la directive sur la liberté de circulation n'est pas appliquée et n'est même pas mise en œuvre dans la législation française. Et deuxièmement, la directive retour n'oblige pas à l'allongement de la durée de rétention des personnes migrantes, n'oblige pas au bannissement pour 5 ans du territoire européen. Cette directive retour n'a pas inventé des zones d'attente mobiles, en tout cas des zones exceptionnelles qui peuvent être décrétées à chaque instant. Dès qu'il y a un groupe, on ne sait pas si c'est dans la loi 2 ou 100, dès qu'il y a un groupe quelque part, on peut décider que c'est une zone d'attente, c'est-à-dire que c'est une zone de droit restreint. La directive retour ne demande pas que des gens puissent rester enfermés 5 jours sans décision de justice, comme la loi, le projet de loi le prévoit. Je veux dire, donc, moi, je commence à regarder ça avec une certaine hargne, parce que vraiment, ce gouvernement utilise l'Europe, mais pour le pire, tout le temps pour le pire. C'est-à-dire que si l'Europe fait quelque chose de positif, rappelle le droit. On dit, mais de quoi se mêle-t-il? C'est la commissaire d'un petit pays qui parle, le Parlement outrepasse ses droits, enfin, l'Europe n'a aucune légitimité. Et d'un seul coup, quand il s'agit de mettre en œuvre la directive retour, alors là, absolument, c'est du droit européen, donc c'est très respectable, il faut mettre ça en œuvre, etc. Moi, je trouve ça quand même ahurissant. Et sur les retraites, pour boucler avec la table ronde de la journée, là, sur les retraites, le gouvernement utilise encore l'Europe en disant « Mais regardez, dans les autres pays, ça se passe comme ça, la durée du travail, machin, en racontant n'importe quoi !» Donc, moi, je trouve que, franchement, c'est immonde. Mais bon, ce gouvernement nous habitue quand même à la vulgarité politique, hein, tous les jours, à la violence politique. Et je trouve que c'est très dangereux, quoi. C'est, dans le moment où on est, participer comme ça, avec autant de systématisme, au discrédit de l'Europe, rappelons le fond de l'affaire quand même de cette Europe. Le fond de l'affaire, c'est d'empêcher la concurrence entre les États, c'est d'empêcher les peuples d'être manipulés pour être confrontés dans une concurrence qui mène au pire les uns contre les autres. Et on voit aujourd'hui que le gouvernement français, c'est à ça qu'il s'attache. Donc il utilise l'Europe pour dégrader ce qui fonde son projet de solidarité, son projet de valeurs partagées, son projet de droits universels. Et c'est vraiment extrêmement malfaisant.
Dernière question posée à Hélène Flautre, interviewée vendredi dernier lors des journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts à Arras. On lui a posé une question sur la naissance en novembre prochain à Lyon d'un nouveau mouvement politique qui vise à rassembler les écologistes, les Verts, Europe Écologie, etc. On lui a demandé si elle considérait cette naissance comme un tournant ou plutôt comme une évolution logique.
Il y a une certaine logique hein, dans ce qui est en train de se passer. Si on regarde les dernières séquences des européennes, où on a lancé donc Europe Écologie, qui est donc une ambition fondée autour de la question écologique, avec une ambition d'un projet global, c'est-à-dire considérer que la crise financière, la crise climatique, la crise des ressources, la crise sociale sont liées, que c'est la conversion écologique, la sobriété, la revendication sur l'égalité des droits pour tous qui peut nous permettre d'enclencher des cercles vertueux qui soit profitable en tout cas pour tous les citoyens. Et le lancement aux européennes a été convaincant parce que manifestement beaucoup de gens ont retrouvé sont venus faire campagne avec nous et les résultats électoraux aussi étaient convaincants. Alors on se disait, ou des commentateurs disaient, mais c'est parce que c'est les européennes, les écolos ont toujours été forts aux européennes, etc. Puis c'est trouvé qu'au régional, eh bien, on a continué à voir affluer des gens qui sont mobilisés sur les enjeux de la conversion écologique, qui ne veulent plus cette fuite en avant du toujours plus, de la concurrence généralisée, de l'individualisme, qui en ont, mais vraiment qui ne peuvent plus supporter cette société et qui trouvent, dans Europe Écologie, voilà des lieux où on essaye, en tout cas, hein, on essaye de proposer, de penser quelque chose, une manière de vivre ensemble qui serait très différente, qui serait plus prédatrice comme ça des humains, des ressources, en obturant les voies d'avenir. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de gens nouveaux qui soient venus, et puis qu'on ait le sentiment que les questions qu'on porte remportent un écho, une pertinence, sont plus convaincants qu'avant, voilà. Ça appelle une nouvelle formation. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'il y ait un mouvement où tout le monde se sente à l'aise, à égalité, partie prenante, pas avec des anciens, des nouveaux, des courants, des tu viens d'ici, tu viens de là. Il y a plein d'histoires différentes, plein de parcours militants. Il faut maintenant donner une forme accueillante pour tout le monde à ces engagements anciens ou nouveaux. Et c'est ça l'ambition en fait de Europe Écologie, alors qu'il s'appellera peut-être plus Europe Écologie, je ne sais pas, peut-être les écolos, peut-être, bon, on verra. Moi, je pense quand même que Europe Écologie, c'est assez bien comme nom. On ne devrait pas forcément changer. Mais enfin, j'allais dire, peu importe, ce mouvement, il va se constituer autour d'institutions, c'est-à-dire comment va fonctionner la direction, la charte éthique, à quoi on s'engage, les élus, à quoi s'engagent-ils. Et puis un manifeste qui va essayer de raconter en beaucoup plus élaboré ce que je vous disais du fond de l'affaire, quoi.
Hélène Flautre, députée européenne, interviewée lors des journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts. Ça se passait à Arras, à Latria, vendredi dernier.